Biotope, un regard sur la construction d'un éco-territoire.
Une émission coproduite par Erdiwa et Radio Saint-Ferréol.
Biotope. Un programme soutenu par BioVallée.
Vous écoutez Erdiwa sur le 107.5 FM et Radio Saint-Ferréol sur le 94.2. Un nouvel épisode de Biotope en compagnie de l'Université de l'Avenir et plus précisément Rodolphe Bals, bonjour.
Bonjour.
Et Lucille Kechichian, bonjour.
Bonjour.
Vous allez donc nous parler de l'Université de l'Avenir et pour commencer, justement, qu'est-ce donc, Rodolphe ?
C'est une association qui a déjà quelques années de travail derrière elle et qui essaye de regrouper un certain nombre d'activités très différentes. C'est parti du constat que la plupart des activités étaient séparées, ne communiquaient pas entre elles, et qu'il y a une espèce de cloisonnement. Et donc l'idée était au départ de regrouper des activités, par exemple l'agriculture, la santé, les seniors, il y a un problème souvent de personnes âgées, la formation, mais aussi de la recherche sur les technologies innovantes, sur les énergies renouvelables. Enfin, ça, c'est un peu classique, mais voilà, c'est important. Et puis, il y a un éco-hameau qui est prévu, et puis des entreprises dans le cadre d'une zone d'éco-start-up. Il y a une interface globale avec le grand public de cette université qu'on appelle la Porte. Voilà. Et donc, c'est de travailler sur une base un petit peu nouvelle, c'est-à-dire où on mélange systématiquement la théorie et la pratique. Un des problèmes, c'est qu'à l'école, de l'école primaire à l'université, c'est plus que de la théorie. La pratique a été en fait mise à l'extérieur et on n'a plus de pratique dans les formations. Et donc là, c'est juste l'inverse. On mélange toujours théorie et pratique. Parce qu'une, je dirais, une bonne pratique ne se fait pas sans qu'il y ait une réflexion approfondie. Mais si on a que le nez dans la pratique, bon, on ne sait plus très bien où on va. Donc ça, c'est un des points importants de chacun des domaines. Et puis, bien sûr, il y a des valeurs. Les valeurs principales, c'est remettre l'être humain et la planète au centre. Et donc, au centre de l'économie, c'est l'économie qui est au service de ces deux valeurs. Et les valeurs humanistes, évidemment, qui vont autour, quoi.
Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment vous avez choisi ces différentes thématiques pour les mettre ensemble ?
L'idée au départ, c'est simplement d'observer la vie. Et on s'est dit, pour sortir un peu de ce cloisonnement où on perd la notion de sens, on perd la notion de responsabilité, on perd l'envie de connaître les autres aussi, parce que voilà, il y a de remélanger les choses très courantes. Donc il faut manger, donc c'est l'agriculture. Il faut rester en bonne santé, donc c'est la santé. Et puis il y a des enfants, puis il y a des vieux. Et donc, ceci s'est noué, je dirais, bah voilà, tout de manière extrêmement simple. Puis après, quels sont les enjeux importants ? Donc, évidemment, il y a l'énergie qui est au centre de pas mal de choses. Il y a les technologies aussi, parce que dans le groupe initial, il y avait beaucoup d'entrepreneurs, et que ceux-ci avaient des problèmes de type technique, avec souvent des engins qui n'étaient pas faits ici, ou qui étaient difficiles à maîtriser. Donc, on avait un petit peu l'impression que dans ces techniques qu'on avait acheté, assez coûteuse, pour faire marcher une entreprise. C'était un petit peu l'impression des gens qui vivent dans un HLM où si l'architecte, on l'obligeait à vivre 3 ans dans un HLM, le suivant, il serait bien meilleur, je pense. Pour les machines, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'il faut qu'une machine soit maîtrisable par celui qui l'utilise. Donc l'aspect innovant des technologies, c'est ça. Bien sûr, il y a des technologies comme l'informatique qui est plus complexe, où c'est le programme qui doit être, je dirais, assez facile. Mais l'idée, c'est ça, quoi. C'est de passer à travers les choses de la vie de tous les jours et de les réunir. Parce que nous, ce qu'on voit, c'est de la réunion des compétences des gens différents que naît des choses, je dirais, intéressantes et nouvelles, quoi.
Et nouvelles, donc, il y a ce terme d'avenir, d'entrée de jeu dans votre nom. Avenir, donc, ça passe par essayer de modifier un petit peu toutes les thématiques que vous avez abordées. Quel travail vous faites, donc, pour pour aller vers l'avenir. Lucie, peut-être ?
L'université de l'avenir, de ce fait, est déjà donc un lieu, en fin de compte, d'expérimentation sur tous ces domaines d'activité, un lieu d'expérimentation pour vivre ensemble, mais pour vivre autrement ensemble. Et avoir un nouveau un mode de pensée, un mode de vivre ensemble plus humaniste, plus solidaire, plus écologique. Qu'est-ce que la santé peut apporter aux seniors et aux hommes en général ? Qu'est-ce que les seniors peuvent apporter aux enfants dans l'éducation, avec la transmission des savoirs ? Voilà, il y a une notion de transversalité en tout cas qui est primordiale, qui est fondamentale.
Et l'objectif va être lequel ? Que tout d'un coup, l'humanité, enfin l'avenir de l'humanité s'affranchisse d'un système capitaliste, par exemple, pour le nommer, ou de nos manières de vivre à l'heure actuelle, qui sont donc moins bonnes ou moins durables ?
Il y a quand même un constat global, c'est que la société ne va pas très très bien, l'économie ne va pas très très bien non plus. La politique globale sur la planète, c'est pas le paradis. Donc, je pense qu'il y a des choses qui sont sérieusement modifiables dans une bonne direction. L'autre aspect, c'est que ça nous semble fondamental qu'il y ait des racines à quelque part. Parce que si on veut qu'il y ait des changements pratiques, ça doit concerner des personnes concrètes, à un endroit. Il faut que le projet ait une racine à quelque part. À partir du moment où il a une racine, c'est-à-dire une expérience, et qu'on a démontré en fait que des choses sont possibles un peu de manière différente, là on peut rayonner, on peut travailler en réseau, on peut avoir une influence sur un petit peu soit des prises de conscience, soit des évolutions, soit des expérimentations nouvelles. L'objectif, c'est de sortir un petit peu de ce système où l'argent... Et roi, en fait, c'est-à-dire que permet tout, voilà. L'aspect humain devient un petit peu un facteur presque secondaire, quoi. Donc il nous semble que l'important, c'est l'être humain, tous les êtres humains. Et puis c'est aussi la planète qu'on est quand même un peu en train d'abîmer sérieusement. Donc c'est remettre ces valeurs simples et fondamentales au centre. Et l'économie doit tourner autour, c'est pas l'inverse. On a quand même l'impression, dans notre situation, c'est que tous les hommes sont au service de l'économie. La crise, on doit se serrer la ceinture, alors qu'il y a de l'argent, il y a des tonnes d'argent sur la planète, sauf qu'ils sont amassés à certains endroits. Et voilà quoi. Donc il y a un certain nombre de déséquilibres. Alors on peut critiquer intellectuellement, mais ça ne nous semble pas très efficace. Donc faire un projet expérimental, où on reste modeste, mais on essaye dans différentes directions avec des gens qui sont partants, et donc dans les groupes, il y a quand même une bonne centaine de personnes qui actuellement participent à la réflexion et au travail dans chaque groupe, quoi.
Alors vous nous avez cité plusieurs champs d'activité. Ce sont des personnes qui sont acteurs dans ces champs d'activité, qui adhèrent à vos réunions de groupe de réflexion à l'Université de l'Avenir. Comment ça se passe ? Parlons de la porte.
D'autant plus que la porte, en fait, c'est en fait l'interface entre le public, les visiteurs, donc, et les résidents et les chercheurs au sein de l'université. Donc elle a pour rôle de faire connaître l'université, bien sûr, les différents domaines d'activité de l'université et l'esprit de l'université. D'autant plus, on pourra peut-être en parler tout à l'heure, mais il y a une charte qui est elle aussi très importante. Au sein de cette porte, qui est enfin une sorte d'organe, une vitrine, un organe de communication, une vitrine, hormis les structures d'accueil conviviales et sympas qui vont bien sûr exister, comme un petit café-restaurant bio, comme une boutique d'artisanat, une galerie d'art, le marché bio qui sera alimenté par les produits de la ferme de l'université. Quoi encore, voilà. Hormis ces différentes structures d'accueil, nous avons au sein de la porte deux projets principaux. Le premier, c'est un centre d'interprétation. Et le second, c'est une sorte de proposition de séjour thématique au sein de la Biovallée. Donc le centre d'interprétation, lui, comme chacun sait, c'est un site, un lieu, un musée interactif un petit peu, qui a pour but de transmettre des informations d'autres culturelles sur les grands problèmes du monde aujourd'hui, planétaires, et puis régionaux, locaux. Il est interactif, donc si on dit interactif, ça veut dire qu'on interpelle. Si on interpelle, ça veut dire qu'on amène les gens à se poser des questions.
On sensibilise peut-être même.
Donc on sensibilise, hein, on sensibilise les gens, on les interpelle sur leur mode de vie aujourd'hui, sur leur mode d'action, sur leur mode d'alimentation, sur leur santé, sur le mode d'éducation. Je pense que nous réussirons le centre d'interprétation si le visiteur qui en sort changé. Nous, notre but, c'est vraiment d'essayer de semer des petites graines dans l'esprit des gens pour qu'ils se posent toutes ces questions et que progressivement, ils s'approprient ce nouveau mode de vie qui serait plus humaniste, plus solidaire, plus écologique. Le second, ce serait de monter des propositions de séjour thématiques, des propositions de produits touristico-culturels. Donc l'appellation n'est pas très adaptée. Il va falloir qu'on trouve autre chose parce que voilà. Mais c'est donc de permettre à tout public, aussi bien des familles avec enfants que des personnes en vacances, des chercheurs, des n'importe qui, des dirigeants d'entreprises et des salariés dans le cadre de séminaires, de séjourner dans la Biovallée pour découvrir des alternatives qui existent dans la Drôme et qui sont directement dans l'esprit de l'Université de l'Avenir. Des solutions alternatives en matière d'écologie, en matière de santé, en matière touristique et autres. Donc on pourra faire des séjours sur un jour, deux jours, trois jours, une semaine, sur mesure un petit peu, donc avec des stages en phytothérapie, avec la découverte d'un dirigeant d'entreprise qui fabrique des produits bio, avec des découvertes de lieux sous forme de randonnée, des prestations en bien-être, santé, et beaucoup d'autres choses encore. Voilà, ce sont les deux axes principaux sur lesquels on travaille actuellement au niveau de la porte et qui permettront de faire connaître l'université, le message qu'on souhaite transmettre.
L'université de l'avenir a un certain temps d'existence. Est-ce que vous n'avez pas subi un peu ce qu'on appelle les désavantages d'un discours qui pourrait être moraliste? Souvent, quand on parle d'écologie, de développement durable, beaucoup de gens vont dire « Ah non, mais c'est trop, ces gens-là savent, ce sont des chercheurs. » Comment est-ce que vous arrivez à articuler à la fois le besoin que la population prenne conscience que c'est ça l'avenir, hein, c'est bien de faire attention à sa planète, de veiller à mieux se respecter, respecter son environnement, et en même temps de ne pas être dans un discours moraliste?
Généralement, la morale, elle est quand il n'y a pas d'action. Un des vraiment axes importants de l'université, c'est évidemment pas de faire de la morale ou faire la leçon aux gens, c'est de d'abord appliquer à soi-même. Donc c'est de faire un travail dans tous les domaines qu'on a évoqués, qui est un travail à la fois de réflexion et de pratique, et qui essaye d'innover, voilà, en passant par les quatre phases d'innovation pour lesquelles on essaye d'appliquer chaque fois un petit peu cette évolution: la recherche, l'expérimentation, la réalisation, c'est-à-dire produire, et puis ensuite seulement de la pédagogie. Et donc ça veut dire que quand on dit quelque chose, c'est qu'on l'a réalisé et on est, je dirais, un petit peu en situation plus légitime de dire quelque chose, mais qui est enraciné dans une pratique, qui n'est pas donc soit de la morale, soit des grandes théories fumeuses, quoi.
Un pur produit de recherche, voilà, voilà, de laboratoire.
Donc, là, on essaye de mêler et de marier plutôt les deux choses, la réflexion et l'action. Et à ce moment-là, je pense que le message, il est très différent, parce qu'on peut expliquer, on peut montrer. Et puis, après, les gens, ils sont libres. De toute façon, la morale, elle engage pas grand monde, quoi.
Vous vous adressez à qui? Des particuliers, des familles, on a entendu, mais aussi des élus, des communautés de communes, des collectivités territoriales?
C'est tout le monde, mais au départ, c'est les acteurs de l'université. C'est-à-dire que c'est actuellement, on est une bonne centaine, on est plus de 100 à travailler assez régulièrement à la chose, dont un certain un certain nombre presque quotidiennement. Donc il y a un travail important. Et déjà, il y a un travail pour ces gens-là de fonctionner autrement. Donc d'apprendre dans tous les domaines, encore une fois, aussi bien la recherche que le travail en groupe, que d'entamer, je dirais, un travail, je sais pas, par exemple, sur la santé ou sur la technologie ou en agriculture, où on a donné des coups de main, ça et là, de le faire selon d'autres types de valeurs et un esprit de recherche et d'innovation. Donc il y a un travail d'abord sur nous-mêmes. Après, on s'adresse à tous les gens qui sont un petit peu intéressés, bien sûr, pour agrandir notre entre guillemets base. Comme nous revendiquons, nous allons demander la reconnaissance d'utilité publique. Il faut, avoir une certaine base plus importante d'adhérents. Et puis, bien sûr, on s'adresse aux élus, on s'adresse aux gens qui ont une activité, à des entrepreneurs, etc. Maintenant aussi à des fondations pour avoir certaines aides. Et puis, ce dont on n'a pas parlé, on a toute une série de partenariats avec... là, il y a des gens très différents. Il y a des instituts de recherche, il y a des universités, mais il y a aussi des projets très concrets liés à du développement, des fois dans le tiers-monde et ailleurs, où on démarre des partenariats communs, quoi.
Est-ce que vous pouvez nous dire si ce sont des projets que vous montez, vous, ou qui sont des demandes qui viendraient de l'extérieur ? Est-ce que, par exemple, une collectivité pourrait dire, j'aimerais que vous réfléchissiez sur toutes les thématiques sur lesquelles vous travaillez déjà, mais sur mon territoire ?
Je vais donner un exemple, il est un peu délicat parce que ce n'est pas signé. Mais bon,
soyons concrets.
On dira quand même que c'est en bonne voie, disons. Donc on a rencontré un institut suisse de recherche sur l'agriculture bio, qui se trouve être l'institut le plus important d'Europe, qui est en train de passer une convention, un partenariat tripartite, d'une part avec la BioVallée et de l'autre part avec l'Université de l'Avenir. Donc on va travailler ensemble, à trois, sur le territoire de la BioVallée, pour faire progresser la bio en agriculture sur la base de pratiques, hein, c'est-à-dire qu'avec des agriculteurs, les traitements biologiques de différentes cultures, différentes attaques de parasites, etc. Et du compostage, enfin tous les thèmes classiques de l'agriculture biologique vont avoir une double approche, l'approche de cet institut suisse qui a 40 ans de pratique, donc qui est intéressant. Et puis nous, dans notre groupe agriculture, on a plusieurs ingénieurs agro, on a des gens qui ont de la pratique, on a d'autres qui ont plus une pratique de jardinier, mais enfin c'est intéressant. Et donc il va y avoir un travail là en commun sur le territoire. Donc tout n'est pas encore défini, mais c'est un projet qui est très intéressant.
Pour rendre encore plus concret, on va rester sur ce projet-là. Vous pouvez vraiment nous décrire l'action ?
Vous devez savoir que dans la charte de BioVallée, il y a un objectif d'augmenter les surfaces en agriculture biologique. Donc ça veut dire deux choses. Ça veut dire que les nouveaux agriculteurs, ils vont devoir choisir des productions. S'il y a plus de production en agriculture bio, il faut pouvoir offrir les solutions aussi qui vont avec, à savoir d'un côté remplacer les engrais chimiques par des engrais naturels. Alors là, il y a différentes solutions, mais il faut... Voilà. Et puis de l'autre côté, il faut pouvoir assurer les techniques de désherbage et puis éventuellement des traitements s'il y a une attaque de parasites ou de champignons, etc. quoi. Donc c'est d'accompagner des agriculteurs dans cette transition vers l'agriculture biologique, ce qui ne va pas de soi, hein, c'est jamais très facile. Et donc ça veut dire avoir du conseil, avoir éventuellement des techniques mises à disposition, apprendre aux agriculteurs à faire un bon compost qui est adapté à son terrain, parce que les terrains sont différents, etc. Et puis trouver éventuellement des produits d'accompagnement, quoi. Voilà par exemple un des buts que peut avoir ce travail. Il y en a d'autres, hein, évidemment.
Rodolphe Balz et Lucie Kesch. Chichiant, pardon, excusez-moi. Est-ce que vous pouvez maintenant nous parler de la vie associative, puisque vous nous avez dit que c'était une association, l'Université de l'Avenir? Comment est-ce que cela se gère, s'articule? On aime bien savoir comment vivent les associations, nous, à l'antenne.
Combien d'adhérents, Rodolphe?
On est à peu près 150 à 200 adhérents, plus 300 sympathisants.
Et des groupes actifs, tout est très divers, mais dans chaque groupe, on travaille, activement. Donc l'Université de l'Avenir se réunit régulièrement quand même, de façon générale. Il y a des réunions générales parce que c'est important de se retrouver et de communiquer, une à deux fois par an, à peu près. Et chaque groupe travaille à son rythme. Moi, par exemple, au sein de La Porte, nous avons des réunions très, très régulières, surtout avec les projets en cours, mais on se réunit au besoin, à la demande, une fois par semaine, une fois par mois. Voilà, c'est comme dans beaucoup d'associations.
Et puis dans son fonctionnement.
Beaucoup de
bénévoles. Et dans son fonctionnement financier, par exemple, vous avez des soutiens. Vous avez cité Biovallée. Est-ce qu'ils font partie de vos financeurs? Est-ce qu'il y en a-t-il d'autres?
Oui, alors, juste encore sur l'association. Il y a un groupe un peu central, où il y a plusieurs personnes qui participent dans les différents groupes, d'ailleurs, qui se voient régulièrement une fois par semaine. Et plusieurs jours par semaine, il y a des sous-groupes qui travaillent, quoi. Donc on est à un stade maintenant de professionnalisation, ce qui m'amène à votre question à vous, comment on finance. Et donc là, on est, je dirais, sur un petit peu dans trois directions. Il y a une direction où, effectivement, Biovallée nous a soutenus, dans le sens où le comité de pilotage du Biovallée, on a présenté un dossier et ils ont voté à l'unanimité le soutien au dossier, qui est parti à la région, et la région, donc il y a eu plusieurs allées et venues, va donc nous donner une aide, mais les politiques devraient signer ça au mois d'octobre. Voilà. Mais c'est en bonne voie, disons.
Cette voie de professionnalisation, pardon, cela veut dire que vous embauchez aussi? Vous faites travailler des gens
Les deux autres pistes, un petit peu de trouver des sous. Donc une des pistes internes, c'est de commencer à produire des choses. Donc on va, donc par exemple, ce que disait Lucille sur c'est l'organisation de visites culturelles, de découvertes thématiques sur la vallée et en relation avec l'Université de l'Avenir, c'est par exemple une piste. On va entamer un cycle de formation, de séminaires, de conférences qui vont balayer plusieurs domaines. Mais on a déjà pratiquement écrit un bouquin, par exemple, sur les éoliennes à axe vertical, sur lequel on va faire un crowdfunding. Donc c'est un financement par le plus grand nombre. Il y a des pistes comme ça. Et puis il y a des dossiers que nous déposons auprès de fondations, des grandes fondations. Et là, justement, nos partenaires, comme on n'a pas cité ici, qui sont des partenaires de Sophie Antipolis sur un programme de recherche sur on va appeler ça le web sémantique. Et on va pouvoir démarcher certaines fondations, mais aussi des grandes associations, voire dans certains cas des entreprises, pour fournir un service qui sera payant, bien sûr. Et donc on est sur plusieurs pistes de recherche de financement et de production qui vont être payants.
Et ce qui permettra d'embaucher, alors?
Voilà, ce qui permet dans un premier temps de dédommager un peu, et puis dans un deuxième temps d'embaucher. Comme des gens, on a pas mal de gens qui viennent nous trouver pour se faire embaucher. On leur dit, pour l'instant, on n'a pas d'embauche. Par contre, éventuellement, si vous êtes vraiment intéressé et que le domaine nous paraît correspondre, on cherche avec vous pour créer l'emploi. Ça veut dire créer l'emploi, le travail, mais aussi aller chercher le financement qui le permet, quoi. Donc on est encore à ce stade-là quand même, quoi.
Capsule.
Un regard sur la construction d'un éco-territoire.
Capsule. En votre compagnie, Rodolphe Bals et Lucie Keshishian, nous allons évoquer l'Université de l'Avenir. Première question, qu'est-ce que c'est ?
C'est un lieu pour chercheurs en vie meilleure, où il y a à la fois de la recherche théorique, pratique, et de la réalisation. Donc on essaye de réaliser dans différents domaines d'activité, de la recherche et de la pratique, de la mise en œuvre, y compris économique.
Avec un désir profond d'aller vers une nouvelle forme de lien entre les hommes et l'environnement, quand même.
Absolument.
Il y a de l'écologie derrière tout cela.
Oui, il y a de l'écologie qui est ouverte. Voilà, c'est pas une théorie, c'est la pratique d'être en harmonie avec soi-même et la nature et les autres, quoi. C'est ça l'écologie, en fait.
Depuis combien de temps existe l'Université de l'Avenir ?
Les premières réflexions sont issues d'un groupe d'entrepreneurs de la vallée où quelques politiques nous ont posé la question « Comment voyez-vous la vallée dans 20 à 30 ans ?» Donc c'est parti comme ça il y a pas mal d'années et petit à petit ça aboutit à ce projet.
Sommes-nous bientôt aux 20 et 30 ans plus tard ?
Ah non, non, quand même.
Pas encore.
Non.
Est-ce que vous pourriez nous faire...
On est autour de la première décennie, quand même.
Ah, première décennie, donc c'est déjà pas mal. Est-ce que vous pourriez nous faire un premier bilan de vos activités ?
Oui, le premier bilan, c'est qu'il y a un projet qui est cohérent, qui tient la route. Il y a plus de 100 personnes qui travaillent activement à l'ensemble du projet, donc dans tous les domaines. Et il y a un travail remarquable qui est fait dans les groupes, qui non seulement a été de conception, de réflexion, de relation, mais qui est en passe de se transformer en expérimentation et en production dans certains cas. Ce qui est extrêmement positif, parce que ça montre que la réalisation est possible. Maintenant, il faut trouver, faut finaliser l'endroit pour pouvoir s'installer... Sur un lieu, quoi.
Et y a-t-il quelques zones d'ombre, quelques points négatifs sur ces 10 ans?
Ben oui, la difficulté, elle fait toujours partie de la recherche. C'est un des gros problèmes français, je trouve. On peut reprocher beaucoup de choses aux Américains, mais quand en Amérique, on rate quelque chose, c'est pas un problème. C'est tout à fait normal. Quand une entreprise dépose le bilan, c'est pas grave, on recommence et c'est tout. En France, c'est dramatisé et je pense qu'on prend les petits échecs de la vie courante comme des échecs, alors qu'en fait, c'est des occasions d'apprendre et on apprend généralement plus quand on s'est trompé que quand on réussit sans s'en rendre compte, quoi. Donc oui, bah, bien sûr, il y a des zones d'ombre, ça avance pas assez vite, il faut trouver beaucoup d'argent, on n'a pas encore trouvé le lieu, enfin on est en négociation, mais ça, c'est pas tout facile. Et puis, l'innovation, c'est jamais tout facile, quoi. Donc comme là, on innove à la fois sur le contenu, les relations et les valeurs, c'est vrai que c'est un enjeu pas toujours facile.
L'Université de l'Avenir est une association. Combien coûte son adhésion ? Comment fait-on pour adhérer ?
Alors, l'adhésion coûte 30 euros. Comment fait-on pour y adhérer ? Eh bien, il vous suffit soit de nous contacter. Donc, notre siège social se trouve sur la commune d'Aiguille. Mais si vous préférez nous contacter oralement par téléphone, il s'agit du 04 75 76 46 02. Sinon, bien sûr, nous vous invitons à nous découvrir sur notre site. Il suffit de taper université-avenir.com où vous trouverez tous les renseignements nécessaires, évidemment les contacts, le bulletin d'adhésion. Voilà, où sont présentées toutes les activités.
Et lorsqu'on est adhérent, on devient un chercheur ?
Lorsqu'on est adhérent, on est tout d'abord un soutien, ce qui est déjà primordial. Et si on le souhaite, on peut devenir bénévole, puisque comme toute association, nous en avons besoin. Donc n'hésitez pas à nous contacter. Si l'un des domaines d'activité vous intéresse, contactez-nous pour qu'on puisse rentrer en contact avec vous. Et si vous avez des compétences particulières, professionnelles, bien sûr, vous serez aussi les bienvenus.
Capsule. Lucie Keshishian, Rodolphe Bals, merci pour cette présentation et à bientôt peut-être sur nos antennes.
Biotop.
Merci à vous.
Merci à vous.
Un regard sur la construction d'un éco-territoire.
Une émission coproduite par RDIWA et Radio Saint-Ferréol. Biotope.
Un programme soutenu par BioValley.